France Culture.
C8 et NRJ12 perdent leur canal TNT aujourd'hui même à minuit. Cyril Hanouna va rejoindre W9 dans le groupe M6 pour une quotidienne en septembre et continuera donc son émission sur Internet et sur les box d'ici là. Alors que la chaîne avait cumulé un nombre record de sanctions, 35 exactement et 7,6 millions d'euros d'amende, une campagne dénonçant une censure s'est structurée depuis plusieurs semaines. Alors l'ARCOM a-t-il été sévère ou bien a-t-elle au contraire tardé à agir? Est-ce le début de la fin de Bolloré dans les médias, ou bien l'homme d'affaires domine-t-il désormais et pour un temps la révolution médiatique conservatrice? Pour en parler, deux invités ce soir. Alexis Lévrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien des médias, vous êtes maître de conférences à l'université de Reims. Vous avez fait paraître en 2021 un livre intitulé Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. Face à vous, Charles Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Lyon 3. Vous êtes l'auteur du livre intitulé Délibéré entre égaux, en Enquête sur l'idéal démocratique qui est apparu en 2019 chez l'éditeur Vrin. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Ce qu'ils ont fait est ignoble. On assiste à une purge stalinienne.
Ça y est, c'est la dernière émission en direct de la chaîne, celle de TPMP, c'est bien cela?
C'est complètement fou. Et c'est vraiment, je vous dis, là, c'est un tournant.
Quand vous avez la première chaîne de la TNT, qui est fermée après un harcèlement ciblé des militants et des associations de gauche.
Un sentiment de colère parce que ce qui se passe est injuste.
Les nouveaux héros de notre temps seront jugés par l'histoire comme étant les libérateurs de la parole.
Nous enlever la possibilité de choisir, c'est le bout du bout de la censure.
Et donc, je salue Cyril Hanouna.
On est tombé dans la dictature.
Je salue Franck Appieto.
C'est un cauchemar total.
Et je salue aussi le grand patron, Vincent Bolloré. C'est eux que l'ARCOM veut atteindre.
Je vous dis pas à demain, je vous dis à bientôt.
Alexis Lévrier, est-ce que ce soir à minuit, le dernier clou du cercueil démocratique français sera planté?
Écoutez, je pense que les extraits que vous venez de diffuser sont tellement caricaturaux que ça se passe de commentaires. Du reste, TPMP continue dès lundi sur Dailymotion, sur YouTube, sur Free, sur SFR, sur Orange. Je suis sur le tweet hein, qui viennent de publier, sur Bouygues, sur Canal+, sur le canal 29. Donc, en fait, ils vont continuer jusqu'à la fin de la saison. Et après, Hanouna va le retrouver sur le canal, sur la chaîne numéro 9 et non plus sur la 8, puisqu'il passe chez W9. La seule chose un peu triste, c'est parce qu'il y a effectivement des gens qui vont perdre leur emploi, mais ils payent pas les décisions. C'est pas l'ARCOM qui est responsable de ça, c'est Cyril Hanouna et c'est le groupe Bolloré.
Vous dites, Alexis Lévrier, que les sons que l'on vient d'entendre sont un peu caricaturaux, c'est sans doute vrai, et pourtant cela résonne dans le corps social. Beaucoup pensent que dans cette décision, il y a une part de censure, il y a une part d'attaque contre un camp politique en particulier. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments?
C'est l'argumentaire qu'utilise l'extrême droite à chaque fois qu'elle est aux portes du pouvoir. C'est systématique, et on l'a vécu en France notamment en 1939, au moment où le décret Marchandeau, qui est la première loi antiraciste, et une loi qui visait les publications antisémites qui se multipliaient en France et qui avait un but anti-parlementaire et qui voulait renverser la République. Et on a fait cette loi, et à ce moment-là, vous avez, avec les mêmes mots que sur les plateaux de CNews, des gens, l'Action française, la France enchaînée, Je suis partout, qui ont dit il n'y a plus de liberté d'expression en France, on ne peut plus rien dire, la liberté d'expression n'existe plus. Ce sont exactement les mêmes mots. Et vous avez eu ça en Hongrie, vous avez eu ça en Italie, vous avez eu ça aux États-Unis. À chaque fois qu'ils vont prendre le pouvoir, ils vous disent il n'y a plus de liberté d'expression et si vous voulez qu'elle revienne, élisez-nous. Et puis une fois qu'ils sont élus, là commence vraiment la censure. Et je crois qu'on a assez d'exemples à l'étranger aujourd'hui pour se convaincre que tous les extraits qu'on vient d'entendre ici entrent dans le cadre d'une stratégie de communication qui vise à prendre le pouvoir pour ensuite imposer la véritable censure.
Charles Girard, comment comprendre les fondements de la décision de l'ARCOM? Intéressons-nous à C8 parce que c'est C8 dans le fond qui attire particulièrement la lumière ces derniers jours. Comment est-ce qu'on explique cette fermeture? Est-ce que ce sont des raisons économiques, des raisons liées à la rentabilité de la chaîne, ou bien ce sont des manquements bien plus larges? Et je pense évidemment à la palanquée de sanctions qui lui ont été adressées depuis plusieurs années.
La première chose, c'est de préciser ce dont il s'agit. On n'a pas exactement fermé C8, ou NRJ12 d'ailleurs, qui est aussi concerné. Ce qui est en jeu, c'est le renouvellement ou le non-renouvellement d'une autorisation d'exploiter l'une des 30 à peu près fréquences de la TNT. Et donc, CNews, qui depuis 2017, puis avant c'était iTélé, son autorisation étant arrivée à échéance, a candidaté, comme d'autres, pour obtenir la prolongation de cette autorisation. Et il se trouve que ce sont d'autres chaînes qui ont été retenues. Mmh. Donc on n'a pas interdit à C8 de diffuser autrement ses programmes, la preuve, l'émission de Cyril Hanouna va continuer sur d'autres canaux. On n'a pas empêché que les mêmes personnes, les mêmes discours soient portés ailleurs dans l'espace médiatique. On n'a porté aucune interdiction à un type de voix, de discours, d'orientation politique particulière. Il y a une décision qui a été prise sur l'allocation d'une ressource rare. Parce qu'il y a, avec seulement une trentaine de fréquences de la télévision numérique terrestre, il y a seulement un petit nombre d'acteurs qui peuvent utiliser ces fréquences pour diffuser leurs programmes. Et donc, il revient nécessairement à l'État de distribuer l'accès de manière provisoire à ces fréquences, à la possibilité de les exploiter, ce qui n'est pas un droit. Et ce qui, quand on l'a pour une durée limitée, n'est pas un droit acquis de toute éternité. Alors après, la question, c'est quels sont les motifs qui sont derrière cette décision ? Pour ce que suggèrent les arguments qui ont été repris dans la décision du Conseil d'État validant, la décision de l'ARCOM, il y a quelques jours, il ressort plusieurs considérations, des considérations qui sont comparatives, en fait, qui portent sur la comparaison entre les offres avec d'autres candidats, notamment ceux qui finalement ont été retenus. On pointe une moins grande diversité de programmes. Il y a des arguments qui sont économiques, qui pointent le caractère précaire financièrement de C8, qui n'a jamais été rentable, qui n'est pas rentable, qui est déficitaire.
Il faut préciser d'ailleurs pourquoi je l'ai appris en préparant cette émission, cette chaîne n'est pas rentable, notamment à cause de la valeur du contrat qui a été adressé à la société de production de Cyril Hanouna. C'est d'abord et avant tout pour cela que C8 n'est pas rentable aujourd'hui.
Tout à fait. Et bien sûr, il est inévitable, parce que c'est ce que prévoit la loi de 1986 sur la liberté de la communication, que l'ARCOM ait pris en compte aussi le passé, c'est-à-dire le comportement de C8 au cours des années précédentes. Et vous l'avez dit, il y a entre une trentaine et une quarantaine de mises en demeure, de sanctions, de mises en garde différentes qui ont été proférées pour des choses extrêmement variables, mais qui vont pièges lancés à des personnes en raison de leur orientation sexuelle, à des gestes relevant de harcèlement ou d'attouchement sexuel non consenti, vers de la diffusion de propos complotistes ou de fausses nouvelles, de présentation de personnes handicapées comme étant toxicomanes sans raison, d'invitation de personnes supposées appartenir à la police qui n'y appartenaient pas. Enfin bon, on pourrait passer toute l'émission en fait à égrener les innombrables raisons de sanctions de C8 d'une part et de CNews, qui elle a vu son autorisation d'exploitation renouvelée. Il est évident que ça a dû jouer et c'est ce que la loi prévoit. L'ARCOM est censé en tenir compte.
Je vais rappeler le nombre de sanctions, 35 exactement, 17 mises en garde, 7 mises en demeure, 11 amendes pour un montant total de 7,6 millions d'euros. Alexis Lévrier, lorsqu'à Cyril Hanouna, son équipe, son entourage, les responsables politiques d'ailleurs qui le soutiennent, expliquent que cette décision de l'ARCOM est téléguidée par l'Élysée, qu'elle est une décision d'abord et avant tout politique. Est-ce que vous avez un doute à ce sujet ou bien la procédure a été parfaitement respectée et elle est par essence transparente?
Elle est transparente, elle a été motivée par ces sanctions qui en fait, donc il y a trois niveaux de sanctions, la mise en garde, la mise en demeure, les sanctions financières, et dans l'histoire de l'autorité de régulation, on n'avait jamais eu besoin de donner autant d'amendes, et surtout des amendes de ce montant. Donc tout cela est vraiment traduit le travail en toute indépendance de l'autorité de l'ARCOM qui a pris son temps. Moi je faisais partie des gens qui trouvaient que ça allait trop lentement, et le Conseil d'État d'ailleurs a enjoint l'ARCOM de mieux prendre en compte la question du pluralisme qui entre dans le cadre de l'article 1 de la loi de 1986, et le Conseil d'État estimait qu'on n'avait pas suffisamment pris en compte ce pluralisme, aussi bien sur, notamment sur CNews, mais ça vaut aussi évidemment pour TPMP. Donc l'ARCOM a mis du temps, c'est le temps démocratique, il est nécessairement lent, mais ça a permis d'arriver à cette décision. On voit bien que la ministre de la Culture, dans le JDD dimanche dernier, a remis en question cette décision. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ont mis en cause cette décision. Et quant à Emmanuel Macron lui-même, ce que je vous raconte dans le livre que vous citez, il a plutôt une tendance à trianguler avec l'extrême droite. Il est beaucoup allé chez Cyril Hanouna au début de son premier mandat. Et il a eu des liens avec le JDD qui sont avérés, et avec Valeur Actuelle avant cela. Donc il a eu des liens avec le groupe Bolloré. Je ne pense pas du tout qu'il était consulté dans cette décision. Donc c'est une mystification signification dont il ne faut pas être dupe. On ment aux Français en disant cela. La loi de 86, elle prévoit que comme ces fréquences sont rares, on ne peut pas y faire n'importe quoi. Je rappelle qu'elles appartiennent à l'État. Et quand vous prêtez votre vélo, pour une durée donnée, vous avez envie qu'on vous le rende en bon état, en ayant plus ou moins respecté le code de la route.
Alors venons-en justement à cette loi de 1986 qui organise la régulation du secteur de l'audiovisuel français tel qu'on la connaît aujourd'hui. Je voudrais vous remonter dans le temps justement grâce à cette archive, une date, 1986.
Le ministre de la Culture que je suis souhaite vous dire que nous ne devons pas, nous les Français, faire en permanence et uniquement référence à notre passé, si prestigieux soit-il. Certes, nous pouvons en être fiers. Certes, il contribue au rayonnement de notre pays et de notre peuple. Mais essayons aujourd'hui d'avoir une culture pour demain, vivante. Essayons d'être un peuple tourné vers son avenir et non pas simplement protecteur de son passé. Je souhaite que cette loi vous apporte une partie de la réponse. La culture de la France pour demain, la culture de son avenir et de ses enfants, de son ouverture vers l'extérieur, c'est aussi une culture de l'image.
Rappelez-nous, Charles Girard, l'esprit de cette loi Léotard, dite Léotard, votée en 1986 et qui organise encore une fois la régulation du secteur de l'audiovisuel.
Alors, au-delà même de la loi de 86, toujours en vigueur, dans les années 80, on voit s'organiser le droit de l'audiovisuel face à plusieurs préoccupations. L'une d'entre elles, principale, directrice, étant la préoccupation de préserver les conditions du pluralisme dans les médias. Et il faut bien saisir ce dont on parle quand on parle de pluralisme dans les médias. Le discours qui est orchestré par la campagne médiatique à laquelle vous faisiez allusion au début de l'émission, est un discours qui suggère qu'en fait, toutes les mesures qui sont prises, les décisions prises par l'ARCOM, le non-renouvellement ou l'exigence d'une forme plus stricte de mesures du pluralisme lors de la décision du Conseil d'État prise en février 2024, ce qui est suggéré, c'est qu'en fait, toutes ces décisions viennent contraindre, limiter, réduire de l'extérieur la liberté d'expression. Or, c'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. Le pluralisme des médias, il est pensé dès le départ, dès le début des années 80 en France, et c'est le cas aussi ailleurs, c'est le cas dans la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme. Le pluralisme des médias, il est pensé comme une condition de la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, c'est pas seulement la liberté d'expression de ceux qui s'expriment ou de ceux qui ont accès aux médias ou qui, par leur position économique par exemple, ont des haut-parleurs que les autres n'ont pas. La liberté d'expression, c'est la liberté de communiquer, c'est-à-dire à la fois d'émettre mais aussi de recevoir des informations, donc c'est aussi la liberté du public. Et ce que vise à garantir l'exigence de pluralisme dans les médias, c'est la liberté de communication du public, la possibilité pour le public d'avoir accès à une représentation équilibrée des courants d'opinion, des courants de pensée, d'avoir accès à une pluralité de sources d'informations, à des sources d'informations suffisamment fiables, dans lesquelles le traitement de l'information est à des garanties d'honnêteté et d'indépendance. Et donc, quand on réglemente, quand on régule la liberté d'expression au nom du pluralisme, en fait, on limite parfois la liberté éditoriale des uns, mais c'est pour préserver, pour promouvoir la liberté de communication du public.
C'est cela, Alexis Lévrier, c'est le prisme, j'allais dire, du pluralisme qui est en jeu dans la décision de l'ARCOM de fermer C8 ?
Oui, il y a ça, et puis il y a beaucoup d'autres choses. Il faut rappeler que la liberté d'expression en démocratie, elle est toujours tempérée, parce que c'est un jeu d'équilibre entre les libertés individuelles, et que même en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on sait toujours l'article 11, parce qu'effectivement, ça proclame que la libre communication des idées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Ça, c'est la première partie de cet article 11. Et on ne sait jamais la deuxième partie, qui pourtant montre que même en 1789, on avait conscience que l'abus de la liberté de l'expression est dangereux. Ça précise que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La loi de 1881, qui est la grande loi sur la presse, qui fonde toujours, c'est un des socles de la République, c'est une loi très libérale. Elle commence par l'article 1, l'imprimerie et la librairie sont libres. Mais après, vous avez des articles, par exemple l'article 27 sur les fausses nouvelles, qui viennent limiter cette liberté, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi dans l'espace public et médiatique. Et la loi de 86, alors entre-temps, il y a eu la loi Pleven, il y a eu plus tard la loi Guesso, mais la loi de 86, elle est plus stricte. D'ailleurs, dès son article 1, vous avez la communication par voie électronique est libre, donc ça, c'est sur calqué sur la loi de 81, mais vous avez immédiatement cette restriction sur le respect de la personne humaine, sur la prise en compte du pluralisme, parce que on a conscience que la rareté de ces fréquences, le fait qu'elles appartiennent à l'État, qu'elles touchent nécessairement un nombre plus important de personnes, oblige à respecter des règles plus strictes. Que Bolloré fasse ce qu'il veut dans le JDD, ce qui pose problème, c'est les conditions dans lesquelles la rédaction a été bannie. Ça, c'est une chose, du moment qu'il respecte la loi de 1881. Mais on ne peut pas faire la même chose sur TPMP. Ça n'est pas possible. Et c'est ce que l'ARCOM a essayé, avec beaucoup de pédagogie, de rappeler au groupe Bolloré. Ils n'ont pas été écoutés. Et finalement, la sanction est tombée. Et c'était logique qu'elle tombe.
Est-ce qu'en 1986, cette vision que vous venez de nous présenter, Alexis Lévrier, est-ce qu'elle fait consensus dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale,
c'est une
à gauche comme à droite.
Mais oui, c'est ça qui est incroyable. On est en période de cohabitation. Cette loi s'appelle la loi Léotard, et on vient d'entendre un extrait qui le confirme. Donc, et pourtant, à l'époque, les grands patrons de presse qui pouvaient faire peur, c'était des gens plutôt marqués à droite, notamment Robert Hersan, le papivore. Et Robert Hersan, quand il a voulu prendre la 5, il y a des archives très intéressantes pour ça, et lorsqu'il est auditionné par la commission de ce qu'était l'autorité à l'époque, il dit bien que ce qu'il fait dans ses médias écrits, dans la presse écrite, dans ses quotidiens, il ne le fera pas si on lui donne une chaîne, parce qu'il sait très bien que la législation n'est pas la même. Et il le fait face à des gens plutôt marqués à droite qui ont conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en démocratie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, les héritiers de François Léotard, Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, ou Rachida Dati, estiment qu'il faut fouler aux pieds ce que leur propre parti a contribué à construire. Et ils en arrivent à reprendre finalement le discours qui s'impose aux États-Unis aujourd'hui, qu'on a entendu lorsque le vice-président américain J.D. Vance est allé à Munich en disant qu'il fallait que la liberté d'expression soit absolue et que la régulation à l'européenne devait s'arrêter. En fait, ces gens-là ne veulent pas de la démocratie. Ils remettent en question tout ce socle de régulation qui a été construit et sans lequel il n'y a pas de véritable liberté, au sens où ma liberté commence, là où s'arrête celle d'autrui, formule réversible, mais qui montre bien que s'il n'y a pas cet équilibre, on a uniquement la loi du plus fort ou du plus barbare. Et au fond, c'est cela que veut imposer. Et si on regarde le fonctionnement de TPMP, même dans la mécanique de cette émission, dans son fonctionnement interne, on avait des jeux, vous l'avez rappelé Charles tout à l'heure, où on s'en prenait à quelqu'un qui était homosexuel, à une femme, sur des questions sexuelles.
On humiliait certaines minorités,
Donc, il y avait en fait une mise en abîme de ce qu'est l'esprit de cette chaîne et de l'émission, et puis malheureusement d'une partie du groupe Bolloré, qui est de cibler des minorités, de cibler les plus faibles. Ça ne peut pas être ça, la liberté d'expression en démocratie.
Et dans le même temps, Charles Girard, l'un des arguments phares premiers des grands soutiens de C8 aujourd'hui, c'est de dire cette loi Léotard, elle a vieilli, elle a pris la poussière. Il existe aujourd'hui un autre monde sur Internet. On peut y dire ce qu'on veut beaucoup plus facilement sur YouTube, sur Twitch, sur d'autres plateformes, simplement en étant circonscrit dans le cadre de la loi. Qu'est-ce que l'on pense du fait, effectivement, que sur Internet, l'ARCOM n'intervient pas, n'agit pas, et donc il faut revoir les fondements même de cette loi Léotard?
Alors, le pluralisme des médias, donc, qui, selon la loi Léotard, est un motif légitime pour limiter la liberté de communication. Et donc j'expliquais tout à l'heure qu'en fait c'est aussi un fondement de la liberté de communication, donc c'est une dimension de la liberté d'expression qui est contenue ou qui doit être conciliée avec l'autre. À quelle préoccupation est-ce que cela répond ? Cela répond à la préoccupation que tous les membres du public aient accès à cette diversité de points de vue, à une vision relativement équilibrée de la pluralité des courants d'expression socioculturelle et à plusieurs sources d'information. Mais ça ne suppose pas simplement que dans le système médiatique en général, il y ait quelque part une représentation des différentes perspectives. Ça suppose que pour la plupart des membres du public, qui n'ont pas tous les mêmes pratiques médiatiques, qui n'ont pas tous accès aux mêmes médias, il y ait accès à cette diversité. Typiquement, la moyenne d'âge des spectateurs de chaînes d'information sur la TNT doit être au-dessus de la soixantaine. Ce n'est pas des gens qui vont sur Twitch. Et donc, il ne suffit pas de pouvoir brandir quelque part un espace médiatique où les discours sont diffusés pour dire, vous voyez, ces discours sont suffisamment représentés. Et donc, c'est un équilibre compliqué. Il faut penser le pluralisme à l'échelle de l'ensemble du système médiatique, mais en prenant compte...
Pas à l'échelle d'une chaîne.
D'abord à l'ensemble du système, et ensuite en prenant compte du fait que les membres du public ont tous des situations différentes, des pratiques différentes, des accès différents au système médiatique. Et du coup, ça suppose d'une part la pluralité des médias, la pluralité des organes, des chaînes, mais ça suppose aussi que dans les médias qui ont la portée la plus importante, qui touchent le public le plus important, il y ait aussi des exigences internes, cette fois, internes à chaque média, de pluralisme. Et la rareté des chaînes de TNT, c'est pas ça l'argument en soi. Avec cette rareté va le fait que l'accès à une fréquence TNT donne un moyen d'accéder à une audience d'un volume, d'une importance bien plus considérable que la plupart des autres moyens de communication dont nous disposons, même après la révolution du numérique.
Alexis Lévrier, vous êtes sur la même ligne. Dans le fond, je veux dire, cette loi Léotard n'a pas vieilli, il faut en garder les fondements. Alors, et peut-être même l'étendre justement aux nouveaux médias.
Alors moi, je pense que la régulation des nouveaux médias, notamment de ce qui se passe sur Internet, c'est plutôt à l'échelle européenne qu'il faut la penser. On a commencé à le faire, mais une régulation nationale, en plus, ça pose des problèmes de constitutionnalité, on a vu avec la loi Avia.
Je parle de l'esprit, pas tant du véhicule.
Oui, mais il faut aussi réguler l'espace médiatique, c'est parce que c'est ce qu'on essaie d'expliquer ici, c'est ce qui caractérise la démocratie. Mais il faut garder à l'esprit que pour un temps encore, peut-être que ça évoluera, mais la télévision va concerner une partie importante du public. Et ce sont des fréquences publiques qui appartiennent à l'État, sur lesquelles on ne peut pas dire n'importe quoi, c'est tout à fait normal. La loi de 86, elle a beaucoup vieilli pour l'aspect concentration des médias. Ça a été pensé justement dans le monde de Robert Hersant. Il y a une disposition, par exemple, la règle des 2/3, on ne peut pas avoir à la fois une chaîne de télé, une radio et un quotidien, parce que à l'époque, Hersant avait énormément de quotidiens, Le Figaro et puis plein de quotidiens régionaux. Bolloré, qui a un empire d'une diversité, d'une complémentarité dont on n'a aucun exemple dans l'histoire, il n'a pas de quotidien. Donc il ne tombe pas sous le coup de cette loi. Ça veut dire qu'il faudrait l'adapter, cette loi, et on n'a pas fait suffisamment. Et malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui de volonté du pouvoir politique, malgré les états généraux de l'information, de mettre cela en application. On a parlé d'un seuil, ça serait intéressant, c'est ce qui existe en Allemagne. Donc il prendra en compte l'ensemble des médias concernés. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'effort politique pour penser une nouvelle loi qui adapterait la loi de 86.
La voix du directeur général de l'ARCOM, Benoît Loutrel, il auditionnait les équipes de C8. C'était le 14 juillet dernier.
Vous êtes une chaîne unique de ce point de vue-là.
Merci, monsieur le conseiller.
Tout à fait. Sur les 8 dernières années, vous cumulez 7 610 000 euros de sanctions. La chaîne d'après la plus sanctionnée, sur la même période, c'est 380 000 euros. Donc vous êtes vraiment dans une case à part, unique, qui vous est propre. Et du coup, moi je reprends aussi en disant, mais il y a eu 2 sanctions en 2017, une en 2019, il y en a 5 en 2023, et pour l'instant 3 en 2024, mais l'année n'est pas terminée, c'est vous qui décidez quelque part quelle sera la suite. À chaque fois, on a eu cette discussion, comment assurer la maîtrise de l'antenne. Et à chaque fois, j'ai le souvenir que vous nous avez expliqué que ça ne se reproduirait pas, que vous alliez prendre les dispositions pour que ça ne se reproduise pas. Et ça revient, ça revient, ça revient. Ça revient. Et vous recandidatez, et en recandidatant, vous ne dites rien sur le sujet. Et donc, ma question est, pourquoi est-ce qu'on doit croire que tout ce que vous auriez pu faire depuis toutes ces années, que vous n'avez pas fait, vous le ferez? Pourquoi est-ce qu'on doit croire que ce que vous nous annoncez aura l'effet que vous nous annoncez, puisque, effectivement, c'est des dérapages majeurs, encore une fois?
Un son qui vient nous rappeler peut-être que C8 a une histoire, et une histoire longue, houleuse, hein, avec cette autorité de régulation. À ce propos, Alexis Lévrier, rappelez-nous peut-être brièvement l'histoire de C8, hein, qui n'est pas né C8 d'ailleurs, et comment cette chaîne a permis d'ailleurs à son patron, Vincent Bolloré, de créer justement cet empire médiatique qui existe aujourd'hui.
Oui, en tout cas, il a réussi là où Lagardère et Hersant ont échoué. Eux, ils partaient plutôt de la presse écrite et ils ont échoué dans l'audiovisuel, tous les deux avec la 5. Et en fait, Bolloré a fait l'inverse. Il a commencé par l'audiovisuel avant d'aller vers la presse écrite. Et il a réussi dans les deux cas, mais il a réussi parce que les pouvoirs publics l'ont aidé. Au départ, on lui a donné cette 8e fréquence qui s'appelait Direct 8. Il en a fait une chaîne qui s'appelait Direct 8, qui lui valait beaucoup de sarcasme parce que c'était une chaîne très expérimentale où il se passait pas grand-chose et qui faisait des audiences dérisoires.
Donc on est en 2005 là.
Ouais, on est en 2005 quand la chaîne est ouverte, et en fait ça va durer quelques années comme ça, et au début des années 2010, il revend. Donc cette chaîne lui avait été donnée gratuitement, hein, et prêtée en réalité, mais il va vendre au groupe Canal+ cette chaîne et DirectStar qu'il avait acheté entre-temps à Lagardère, mais il la vend plusieurs centaines de millions d'euros, et surtout il a l'intelligence de se faire payer en actions, et comme ça il entre dans le capital de Canal+. Et de l'intérieur, comme il fait à chaque fois, il va progresser ensuite et devenir le véritable propriétaire de Canal+. Et c'est de là qu'il développe ensuite ses news et qu'il va ensuite conquérir, en profitant notamment du Covid, ensuite des titres de presse écrites et dévorer ce qui restait du groupe Lagardère. Donc c'est tout cela parce qu'il y a eu cette naïveté, cette ingénuité des pouvoirs publics. Donc il y a quelque chose de très ironique quand on entend aujourd'hui ce groupe qui parle de censure et qui dit que le pouvoir politique lui en voudrait. En réalité, cet empire médiatique, il trouve son origine dans la mansuétude et dans l'extrême naïveté dont les pouvoirs publics ont fait preuve à son égard.
Charles Girard, je voudrais vous confronter à un argument qui est aussi régulièrement utilisé ces derniers jours et ces dernières semaines. L'argument dit de popularité. On dit beaucoup que des millions de téléspectateurs français vont perdre leur programme favori, leur émission favori, puisque TPMP va disparaître et évidemment toutes les émissions que contenait la chaîne C8. Qu'est-ce qu'on peut dire face à cela ? C'est vrai que les chiffres de Cyril Hanouna sont impressionnants. C'est vrai qu'il est suivi par bon nombre de téléspectateurs. Est-ce que l'ARCOM aurait pu entendre aussi cet argument ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut s'interroger sur les conditions de ce succès. Comme ça vient d'être rappelé, c'est notamment avec l'aide des pouvoirs publics, avec cette possibilité d'exploiter cette part du domaine public qui est la fréquence 8, que ce succès a pu être construit. Si il dépendait seulement de la popularité, du succès ou de la qualité des programmes, il n'y a pas de raison de s'inquiéter du fait que la même émission ou les mêmes programmes soit déplacé vers d'autres canaux, puisque dès demain sur Dailymotion, en septembre sur W9, TPMP pourra continuer. Donc c'est un argument qui a ses limites si on veut maintenir l'illusion d'un succès qui n'aurait rien, qui ne devrait en rien au privilège de fait qu'a constitué l'autorisation d'exploitation. Deuxièmement, c'est mal comprendre ce qu'est la régulation de la liberté d'expression, y compris encore une fois au nom de la liberté d'expression elle-même. Ce qui motive cette régulation, c'est l'idée que le jeu du marché ne suffit pas à garantir les conditions de diversité, de pluralisme d'information que la démocratie appelle. C'est l'idée que le jeu du marché peut aussi être une source de conformisme, peut conduire à éliminer des médias, certains points de vue, certaines voix, certains discours que le public a le droit d'entendre. Et donc c'est vouloir réduire la réglementation ou la régulation de la liberté d'expression au jeu brut des forces du marché, c'est oublier qu'il y a un rôle politique et un rôle démocratique de la liberté d'expression qui fonde, en droit français comme en droit européen, la manière dont elle est organisée, dont on organise son exercice.
Au-delà de ces écarts nombreux, Alexis Lévrier, est-ce qu'il y avait par ailleurs un problème avec le positionnement politique de C8. Les travaux de Claire Sécaille, par exemple, ont montré que cette chaîne favorisait la diffusion des discours très droitiers, voire d'extrême droite, pour dire les choses franchement. Est-ce que là aussi, cela a participé à la décision de l'ARCOM, ou bien il y a dans le paysage médiatique d'autres chaînes qui favorisent ce type de discours, mais qui continuent de vivre leur belle vie ?
Alors, on peut penser à CNews, qui mène la même campagne, mais bon, je préfère décoder ce que vous dites. CNews, moi, je trouve effectivement qu'il y a d'énormes problèmes avec cette chaîne, mais si on suit la logique de l'ARCOM, les sanctions sont plus récentes et elles sont moins massives, notamment pour les pénalités financières. Donc, dans la logique de l'ARCOM, si une chaîne devait être sanctionnée, c'était d'abord C8. Donc voilà, il faut respecter l'indépendance de l'autorité de régulation qui fait preuve de beaucoup de courage par ailleurs. On le voit avec les répercussions de cette décision et les fake news qui ont été inventées par le groupe Bolloré notamment.
Mais est-ce que dans ces auditions, dans ces arguments, l'argument, j'allais dire même du positionnement politique, a été soulevé par le régulateur ?
Le caractère pluraliste, il est dans l'article 1, des idées, des opinions. Donc, effectivement, dans le fonctionnement de TPMP, ce qui est très spectaculaire, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'au départ, Cyril Hanouna n'est pas un homme d'extrême droite. Et son talent particulier, on peut trouver que c'est un peu poujadiste, mais c'était de faire de son émission un lieu où tout le monde pouvait s'exprimer. Et où, en fait, il y avait un relativisme général, tout se valait, mais il y avait beaucoup de femmes voilées. Il mettait en scène des débats, un peu dans l'esprit de ce que De Chavannes faisait à une époque, dans les années 90. C'était très virulent, c'était très surjoué, mais il n'y avait pas de positionnement politique. Et ça traduit, je pense, la conquête, la croisade politique, religieuse, parce qu'il y a cette dimension-là aussi. Il ne cesse de vanter lui-même les origines chrétiennes de la France, maintenant. Donc, il participe d'une croisade qu'il n'a pas inventé, qui est celle du groupe Bolloré, et dont il est devenu le vaisseau amiral pendant quelques années, et notamment au moment de la campagne de 2022, et ça a été très bien documenté effectivement par Claire Sécaille, et surtout la partie fin de l'année 2021, au moment où les thématiques de la campagne se sont cristallisées, c'est sur CNews et dans TPMP qu'on a parlé immigration, identité, islam, et qu'on a valorisé les personnalités politiques du Rassemblement National au mépris total de ce que prévoit la loi de 86.
Je voudrais vous faire entendre, peut-être remonter le temps avec vous, il y a 20 ans justement, lorsque cette chaîne était créée, Vincent Bolloré prenait la parole sur C8, c'était alors Direct 8, entendons sa voix.
Bonsoir, bienvenue sur Direct 8.
Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Vincent Bolloré.
Philippe Labro, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Cela fait 20 ans, en France, qu'il n'y avait pas eu de nouvelle chaîne gratuite. Et on est heureux ce soir d'inaugurer la TNT, qui va permettre à 45 millions de Français d'avoir des nouvelles chaînes. Cela fait peut-être du bien de se retrouver ensemble, Philippe. Oui. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on parle de ce projet.
Oui, oui. Et puisque c'est une chaîne en direct, vous êtes en direct et vous êtes en direct toute la soirée, le direct, c'est la vérité de la vie. Et dans la vie, Vincent Bolloré et moi-même, nous nous tutoyons. Alors la télévision, d'une manière générale, lorsqu'on est dans les couloirs, on se tutoie, et à la seconde, on arrive sur le plateau, on se remet à vouvoyer le copain qu'on a depuis, ou la relation qu'on a depuis 10 ans. Eh bien, Vincent, on va se tutoyer tout simplement, puisque c'est ça. Ça va être une des caractéristiques que nous avons essayé d'imposer dans cette chaîne. On est comme on est dans la vie. C'est la nature, c'est le réel. Le direct, c'est le réel.
Charles Girard, le direct, c'est la vérité de la vie, c'est le réel. Donc je m'adresse à vous, philosophe que vous êtes. Ce qui est frappant pourtant lorsque les équipes de Canal étaient face à l'Arcom, c'est qu'elles ont proposé une solution justement pour tenter de sauver C8, c'est de suggérer de mettre en place un différé, hein, c'est-à-dire quelques secondes, quelques minutes entre le direct et la diffusion effective des images. Pourquoi cette proposition n'a-t-elle pas emporté l'avis et l'opinion de l'Arcom?
Ah ben, je ne peux pas parler à la place de l'Arcom, mais vu l'absence de réaction de la part des responsables de C8 comme des responsables de CNews face à la multiplication des sanctions au fil des années et le manque de volonté manifeste pour empêcher ces dérapages, j'imagine que la crédibilité d'une telle promesse était assez ténue. Ce qui me frappe en entendant cet extrait, c'est la manière dont la situation générale a changé en 20 ans, parce que, bien sûr, les motifs de la décision de non-renouvellement de l'autorisation d'exploitation sont sans doute ceux qu'on a donnés tout à l'heure et sont liés à cette chaîne, mais le contexte est très différent. Le contexte, c'est la construction d'un empire médiatique qui rend possible que des organes de presse différents, dans différents médiums et différents écosystèmes médiatiques, se mettent au service d'une même cause, d'une même idéologie. Et en un sens, les extraits que vous avez donnés au tout début de l'émission, c'est-à-dire cette espèce de campagne orchestrée contre la décision, donc qui défend les intérêts du groupe Bolloré, mais aussi en fait contre les juges et ultimement contre l'État de droit, cette idée que les juges sont les censeurs, l'État menace la liberté, et donc c'est à la fois Orwell, et puis c'est l'affaire Dreyfus.
Et les bien-pensants aussi.
Bien sûr. Et on a même entendu sur les ondes Bolloré l'idée que quelque part, on avait le retour de l'étoile jaune. Donc des propos complètement outranciers, ignobles même. Mais ce qui est très frappant, c'est que c'est une campagne médiatique. C'était le cas en février 2024 après la décision sur le pluralisme. C'est le cas aujourd'hui avec la fermeture de C8. C'est une campagne qui s'organise de manière simultanée, donc forcément coordonnée d'une manière ou d'une autre, dans les colonnes du JDD, dans les colonnes de Paris Match, sur les ondes à Europe 1, si vous allumez CNews, si vous allumiez jusqu'à aujourd'hui C8. Et donc, c'est pas vraiment de nature à rassurer les inquiétudes de ceux qui, précisément, craignent l'aptitude d'un empire médiatique à rogner le pluralisme en imposant une idéologie particulière sous couvert de respect du pluralisme. C'est quelque chose que... C'est pas une question nouvelle, hein, c'est quelque chose que Alexis de Tocqueville pointait déjà dans De la démocratie en Amérique, lorsqu'il expliquait que la presse était à la fois... Chaque journal était un organe absolument sans influence, mais que la presse dans son ensemble était, après le peuple, la plus grande des puissances en démocratie. L'idée de Tocqueville, c'était là où règne la souveraineté du peuple, la censure est non seulement un danger, mais c'est une absurdité. Parce que si le peuple doit pouvoir gouverner, ou en tout cas contrôler les gouvernants, les choisir, il faut que le peuple puisse choisir entre les opinions qui s'opposent, donc il faut qu'il les connaisse, et puis il faut qu'il puisse le faire à la lumière des faits qui sont connus et qui sont disponibles. Et Tocqueville disait, c'est grâce à la presse seulement, donc aux médias aujourd'hui que c'est possible, mais le principal danger, c'est si un très grand nombre d'organes de presse se mettent à marcher dans la même voie, dans la même direction, en soutenant une seule et même perspective.
Cyril Hanouna a annoncé hier que TPMP se poursuivrait hein, dans le cadre du groupe M6, notamment sur la chaîne W9, Alexis Lévrier. Ce qui est frappant dans cette continuité, dans le fait que cette émission perdure, c'est que dans le fond, l'argument de popularité semble l'avoir emporté. L'Arcom a sanctionné une chaîne, puisque concrètement la chaîne se voit fermée, en tout cas interdite à la diffusion sur la TNT, alors que les équipes de production, le producteur, l'animateur de cette émission, eux, n'ont pas été fondamentalement sanctionnés.
Oui, mais bon, on s'y attendait. Et moi,
oui, mais ça pose la question de la responsabilité aussi de l'animateur et des groupes et des équipes de production.
Oui, mais il ne pourra pas faire n'importe quoi sur ces médias-là. Et moi, ce qui me surprend dans l'histoire, c'est qu'en fait, il est lâché par le groupe Bolloré. Il va perdre aussi son émission sur Europe 1. Je disais, c'était le vaisseau amiral en 2022 et encore en 2024, notamment via cette nouvelle émission sur Europe 1 où on a, et même dans TPMP où on a organisé l'union des droites. Là, il ne pourra plus jouer ce rôle. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que la créature a échappé à son créateur. C'est-à-dire qu'il est tellement clivant, y compris hier soir quand il dit qu'il va militer pour le trumpisme, que je crois que Bolloré ne veut pas aller jusque-là. Et il veut se ménager la possibilité de soutenir des candidats de droite plus traditionnels. Donc je pense qu'il y a là une sanction à l'égard de Cyril Hanouna. Et il va aller effectivement sur le groupe M6, mais il ne va pas aller sur M6 ou sur RTL.
Sur
il
W9.
Il va sur W9 et sur Fun Radio. Donc c'est des médias de divertissement. Et vous avez immédiatement vu, la première chose que Bolloré fait quand il arrive dans un média, c'est qu'il met fin à tout pluralisme interne. C'est pour ça que c'est amusant de les entendre parler de liberté d'expression. C'est-à-dire que les sociétés de journalistes disparaissent. Partout, il s'est passé la même chose. Et là, il reste des sociétés de journalistes au sein du groupe M6-RTL, et elles ont immédiatement réagi en disant qu'elles ne voulaient pas de Cyril Hanouna et qu'elles s'attendaient à ce que s'il arrivait, ils reprennent cette croisade. Et c'est ce qu'il a annoncé hier soir, du reste. Donc il arrive sur des médias de divertissement avec un projet politique. À mon avis, ça va poser problème.
Et pourquoi vous nous dites, Alexis Lévrier, qu'il ne pourra pas faire sur W9 ce qu'il faisait sur C8 ? Qu'est-ce qui vous garantit cela ?
Alors si on reste dans un contexte démocratique, si l'extrême droite arrive au pouvoir, et on la voyait très bien au moment où ils ont pensé arriver au pouvoir, c'est-à-dire avant les législatives, juste avant, vous aviez Sonia Mabrouk, par exemple, dans le JDD, qui disait que même si Jordan Bardella gagnait l'élection, enfin devenait Premier ministre, le vrai Premier ministre, ça serait le président du Conseil constitutionnel. Et sur les plateaux de CNews, à ce moment-là, on attaquait le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'ARCOM. S'ils arrivent au pouvoir, ils vont essayer de faire sauter tous ces contre-pouvoirs démocratiques. Mais si on reste dans un cadre normal de la démocratie, l'ARCOM va continuer à jouer son rôle. Donc si le nouveau président de l'ARCOM, je pense qu'il va faire son travail. Et
L'ARCOM a mis un temps considérable à agir.
Mais maintenant, ce passé est là. Et CNews, la nouvelle convention, est beaucoup plus stricte aussi. Donc moi, je crois qu'ils vont continuer à faire leur travail. Et en plus, je vous disais, il y a un pluralisme interne au sein du groupe M6-RTL. Ce n'est pas un groupe d'extrême droite. Il ne pourra pas faire n'importe quoi. Donc s'il veut le faire, à mon avis, il va avoir des difficultés en interne. Et il y a une vraie tension là, entre des médias de divertissement qui sont prêts à l'accueillir et lui qui continue à avoir un projet d'ordre politique.
En quelques mots, Charles Girard, au sujet de l'avenir, vous êtes sur la même ligne qu'Alexis Lévrier ?
Je ne veux pas pêcher par optimiste, on verra ce que l'avenir nous réserve. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas minimiser le coût économique, notamment, que représente la perte d'une licence d'exploitation de la TNT pour un groupe médiatique. C'est absolument considérable sur le plan économique, en termes de possibilités de valorisation. Donc c'est très certainement une incitation aux chaînes qui ont vu leur autorisation renouvelée ou qui l'ont obtenue alors qu'ils ne l'avaient pas avant, à faire attention à ce qu'elles respectent leurs obligations légales et conventionnelles.
Merci à tous les deux de cette discussion et de ces éclairages au sujet de C8 et de son avenir pour l'instant dans la nuit. Merci à tous les deux.